Est-ce que vous aussi, tard le soir, parfois, vous avez cette envie qui vous assaille de changer de vie, d'aller mieux enfin mentalement, de faire en sorte que les choses aillent mieux dans ce sens-là, mais aussi dans le sens physique ou encore dans le sens relationnel, mais que lorsque vous réveillez, en fait, vous êtes effrayé ou vous n'êtes pas assez motivé pour faire ce changement-là. Qu'il y a toujours une raison qui fait que ça vous semble si loin et impossible. Si c'est le cas, alors bienvenue dans cet épisode les gars. Aujourd'hui, il va nous faire du bien, il va vous faire du bien, je l'espère. Installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite marche. C'est parti. Je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode qui n'était absolument pas prévu, mais qui, j'adore hein, quand ça me fait ça avec des épisodes, plus que jamais avait besoin d'être réalisé et d'être monté et d'être partagé. En ce moment, il y a plusieurs pensées qui se bousculent dans ma vie. Honnêtement, je pense que je suis dans mon année charnière. Hein. Mes 23 ans, ça a été énormément de remises en question. J'ai toujours eu des remises en question, j'ai toujours pensé à beaucoup de choses. Vous en êtes témoin depuis plusieurs années, que ce soit sur toutes mes plateformes de partage, j'ai toujours fait des cas de conscience en vidéo et tout, machin. Mais cette année, ça a été plus particulier que jamais parce que, en un sens, au point où j'en suis de ma vie, donc à 23 ans, il y a certains points, justement, où j'en suis arrivée à des extrémités, où je me suis dit, là, je suis arrivée au bout du rôle. Soit je lâche le truc, soit j'en fais autre chose, mais ça ne peut plus, entre guillemets, continuer de cette manière. Ça a été le cas pour bien des points, et aujourd'hui, je vais vous en délivrer plusieurs. Je suis également ravie de vous dire que cet épisode, il est sponsorisé, et c'est la première fois par la collection Stardust qui m'a envoyé le tome 2 du Royaume Céleste, à savoir une duologie dont le tome 2 est le cœur du guerrier du soleil, que je vous invite plus que jamais à lire sans modération. Je vais le rappeler dans cet épisode de podcast, mais j'avais vraiment besoin ces temps-ci de m'évader, de voyager, et clairement c'est la saga qu'il vous faut pour ce faire en ces temps maussades gris pluvieux de fin d'année. Vous y suivrez l'histoire de Xingyin dans un univers fantastique qui va tenter de sauver l'honneur de sa famille et de bien d'autres choses en acceptant tous les périls qui lui incomberont. J'ai adoré l'histoire pour son côté intrépide, pour son côté lyrique, mais aussi pour les enjeux politiques de guerre et le triangle amour extraordinaire qu'elle regorge. Donc voilà, à la fin du podcast, si vous avez autant que moi envie de bouger un peu les choses qui vous entourent en ce moment, ça commence aussi par ça. Et c'est disponible partout. Voilà, on va parler dans cet épisode de santé mentale, on va parler de santé physique, on va parler de l'envie de changement, mais de la peur que ça implique, et bien évidemment de la motivation que ça requiert. On va parler de petits tips et de petites astuces, moi qui m'ont permis de faire se dérouler, on va dire, de manière saine et équilibrée et progressive. Et surtout, on va parler des conséquences que je constate déjà là, à un mois d'efforts, de ces petites routines mises en place. Je pense que j'aimerais bien faire une fois tous les, je sais pas, un mois, deux mois ou même trois mois, un espèce de checkpoint sur tout ça, parce que je pense que ça peut être intéressant pour continuer, voilà, de, comment dire, d'étendre la parole à ces sujets. Alors, faut savoir que je comptais garder ça privé à la base, parce que bah, ça l'est. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point moi, j'avais pu faire ça parce que j'avais entendu des gens me le dire autour de moi. C'est que ce matin, j'ai fait ma deuxième séance chez un psy. Alors, pour certaines personnes, c'est éclaté, soit parce que vous y êtes allé ou que vous y allez, ou que bref, peu importe. Mais moi, voilà, ça n'a pas du tout été le cas. C'est assez étrange et contradictoire dans un sens parce que j'ai grandi dans une famille excessivement tolérante et bienveillante à bien des égards, à même je dirais tous les égards. Et la santé mentale en faisait partie d'une certaine manière, c'est-à-dire que chez moi on a toujours eu, ma sœur et moi avec mes parents, ou du moins je parlais pour moi-même, j'ai toujours eu un dialogue extrêmement libre avec mes parents sur tous les sujets. Il n'y avait pas de tabou en fait, je savais que je pouvais parler à mes parents de tout sans avoir peur, ou du moins très peu de leur jugement, parce que je savais qu'il allait rarement en avoir un. Et ça s'est avéré vrai en fait au fil des années. Néanmoins, la question de la thérapie et voilà, d'aller solliciter en fait une aide professionnelle thérapeutique, c'était pas l'unanimité chez mes parents, pour des raisons différentes dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais qui ont fait que malheureusement, pour moi, là, qui conçoit la thérapie comme quelque chose d'utile, de nécessaire, et à détaboutiser encore, parce que c'est encore trop tabou, c'est encore trop quelque chose qu'on cache, c'est encore trop quelque chose qu'on conditionne en fait pour y aller. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de vous en parler à vous. C'est que ça fait, je pense, des années, mais des années que je dois aller voir un psychologue. Je vais plus parler de psychologue que de psychiatre parce que moi, c'est ce qui vraiment fait écho à mes besoins. Mais encore une fois, toute aide est intéressante. Et voilà, ça faisait des années que je savais que je devais aller en voir un, mais je repoussais. Et puis, ces 3 dernières années, je sentais que j'en avais de plus en plus besoin parce que j'avais de plus en plus de carences dans ma vie. J'avais de plus en plus de moments que je n'arrivais pas à comprendre, où j'étais frustrée parce que je voyais bien que je n'arrivais pas, en fait, de moi-même à trouver les clés pour aller mieux ou juste pour comprendre pourquoi ça, je n'arrivais pas à le faire aussi spontanément que les autres autour de moi. Et où je voyais, en fait, que l'aide que m'apportaient mes amis, ma famille, mes amours, peu importe, n'étaient pas suffisants, bien que ces personnes soient très présentes. C'est qu'il y a des choses, en fait, qui nous dépassent, donc qui dépassent foncièrement nos amis. Et en plus, nos amis, nos amours, notre famille, une fois de plus, n'est pas objectif face à nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est impliquée, en fait, impliquée, pardon, sentimentalement, humainement parlant, dans votre parcours de vie, ce n'est pas possible d'avoir de sa part une objectivité totale. Ce sera toujours une objectivité qui sera conditionnée, qui, parce que la personne vous aime, parce que la personne vous connaît, alors que l'aide d'un professionnel de la santé, c'est justement d'aller chercher une objectivisation totale et en plus, après, une analyse, etc., une capacité d'analyse, de réponse, d'orientation qui se fait sur la base d'études que vos proches n'ont pas fait, peu importe à quel point ils sont disponibles, peu importe à quel point ils écoutent. Et voilà, moi, ça faisait 3 ans que je savais que j'avais besoin d'aller voir un professionnel ou une professionnelle, mais que je ne le faisais pas, parce que malgré cette parole très ouverte sur le fait de, si t'as besoin de changer ton quotidien et aller voir un psy pour aller mieux mentalement, parce que ça va rudement changer ton quotidien à venir pour le meilleur. Voilà, je savais que d'une part, c'était good, mais de l'autre, je me disais, je suis pas légitime, en fait, à aller voir un psychologue ou une psychologue, parce que j'ai pas de raison fondamentale d'aller mal. Et c'est là où je dis que je trouve ça important de parler de l'accès à la psychologie et surtout de déconditionner l'accès à la psychologie, parce que ça empêche en fait beaucoup de personnes, moi compris pendant des années, d'aller consulter quelqu'un parce que non mais j'ai rien de grave dans ma vie, ça va, pourquoi j'irai, en fait limite je vais culpabiliser, limite je vais me trouver faible, vulnérable que certaines personnes qui en auraient besoin, parce que moi j'ai pas eu de vrais trucs traumatiques, et du coup ça veut dire que je suis encore plus une miskine en fait d'aller voir un psy. Ça veut dire que si moi à mon niveau, avec rien de grave qui m'arrivait dans ma vie, je vais voir un psy parce que je me sens hyper mal, mais qu'est-ce qui se passera en fait quand ça ira encore plus mal? Et ça, c'est de la bêtise. Quand on l'entend, si vous l'entendiez de n'importe quel de vos potes, vous le direz, mais mec, enfin, pas du tout. Si t'as besoin d'aller voir un psy, c'est que déjà, t'as des choses à régler. Sauf que quand c'est nous-mêmes, eh bien là, on conditionne, on donne des conditions, en fait, pour aller se faire aider. C'est-à-dire que... Et en plus, ces conditions, elles sont biaisées de ouf, vous voyez? Parce que moi, j'étais en mode, non mais ça va, c'est pas comme si mon père était mort. Sauf que j'ai eu des deuils à faire, en fait, ces dernières années. J'ai notamment eu un deuil qui a été très dur, très violent, qui me fait encore à l'heure actuelle beaucoup de peine. Et ça, je l'ai complètement occulté. Parce que, c'est pas mon père. Donc, c'est grave, mais c'est pas grave à ce point. Genre, je peux composer, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le fait est que j'arrive pas à exprimer naturellement mes émotions, que j'ai toujours besoin de les analyser, comme je vous en ai parlé très souvent. Non mais c'est pas la fin du monde, genre ça va, je suis pas en famine. Mais le truc en fait, c'est que si on pense toujours à pire que nous, ben on se fera jamais aider, mais c'est juste en fait que par contre ça nous aidera jamais à aller mieux. Et ça, en fait, à partir du moment où vous l'intériorisez, vous rendez bien compte de, comment dire, l'impasse que ça crée de juste dire « Ouais mais ça va, il y a pire que moi ». Oui, 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 c'est vrai, il y aura pire que vous. Vous allez toujours trouver pire que vous. Par contre, est-ce que ça a aidé quelqu'un une fois dans sa vie, sur le long terme, de se dire « il y a pire que moi » pour aller mieux mentalement? Les raisons pour lesquelles je vais voir un psychologue à l'heure actuelle, c'est qu'à 23 ans, il y a des nœuds que j'ai émotionnels, de trauma, que j'arrive pas à mettre les doigts dessus. Et ça ne bouge pas. J'ai eu beau attendre, j'ai eu beau me dire peut-être que c'est le moment, peut-être que quand je serai à la fac, ça ira mieux, et peut-être que quand je serai partie de la fac, ça ira mieux, peut-être que quand j'aurai tel entourage, ça ira mieux, peut-être que quand j'aurai telle relation amoureuse, ça ira mieux. J'ai eu tout ça, je l'ai à l'heure actuelle, dans le sens où je me sens comblée, je me sens écoutée, je me sens entourée. Je fais un métier que j'adore, où jamais un seul jour je m'ennuie, je me stimule, mais pour autant, non, ça va pas mieux. parce que ce sont des problèmes qui me dépassent et où j'ai besoin d'aller voir un professionnel de la santé. Et j'en suis à mon deuxième rendez-vous. En soi, vous voyez, deux rendez-vous, c'est pas grand-chose. Mais rien qu'en deux rendez-vous, je me rends compte, mais alors le nombre de choses qui me... Comment dire ? Qui me bloquent dans qui je suis à l'heure actuelle. Et j'en suis qu'à deux séances. Et vous voyez, en deux séances, on parle de beaucoup et de très très peu de choses, en fait. On parle de beaucoup de choses, on va dire, en surface, mais très peu de choses en profondeur. Mais là, rien qu'aujourd'hui, j'ai eu une séance où vraiment, à la fin, la séance, elle m'a retourné toute la journée. Parce que juste avec une réflexion qu'elle a dit, sur moi, une pensée, en fait, qui fait de moi qui je suis en tant qu'humaine, juste ça, toute la journée, je me suis dit, mais waouh, mais si je déconstruis juste avec ce qu'elle m'a dit là, mais il y a tellement de choses qui s'expliquent. Et il y a tellement de choses que je peux vivre mieux. Ça va être difficile au début parce que ça fait 23 ans que je fonctionne comme ça. Mais en fait, si je pense comme ça sur tous les autres pans de ma vie, mais le changement que ça va créer. Et ce que je trouvais important en fait dans cet épisode à apporter, c'est qu'avant mon premier rendez-vous psy, ou même avant de le prendre mon rendez-vous psy, j'étais extrêmement stressée, soit de le faire, soit d'y aller, parce que j'avais hyper peur du changement. Je savais que j'en avais besoin, je savais que j'en avais envie, je savais que j'étais à un point dans ma vie où là j'en avais marre, où je sentais que je me butais, je faisais face à un mur, où je sentais que voilà, pour évoluer, j'allais avoir besoin d'une aide extérieure. J'avais envie de ce changement, j'en avais besoin, je le savais, mais pour autant, j'étais tellement effrayée déjà de l'effort que ça implique, de budget, etc., qu'il y a à mettre, ça c'est encore plus évident. Mais surtout, j'étais effrayée de me dire, mais là, si je commence à opérer ce changement, est-ce que je suis prête, en fait, aux conséquences que ça va impliquer ? Est-ce que je suis prête à ce que ce changement, peu importe à quelle échelle, change qui je suis ou du moins ma façon de penser, change peut-être des constructions que je me suis faites de mes parents ou d'influences extérieures ? Est-ce que je suis prête à affronter tout ça ? Parce que 23 ans de vie, c'est déjà pas mal, vous voyez ? Et se dire à 23 ans, peut-être qu'il y a la moitié des pensées que tu as, des raisonnements que tu as qui sont pas les bons, qui te font pas du bien, et bien c'est effrayant. Parce que ça veut dire, ça se trouve, je me rends compte que par exemple, je suis pas du tout dans le bon métier. Et est-ce qu'à 23 ans, j'ai la force de repartir soit dans des études, soit dans un métier totalement différent, de me poser ce genre de questions, alors que tout le monde autour de moi semble avancer, semble savoir ce qu'il veut. J'ai même des potes qui ont fondé une famille, qui ont des bébés, qui ont des maisons, qui ont des chiens. Est-ce que je suis prête en faisant une thérapie à affronter le fait que ça se trouve, ma vie à l'heure actuelle, c'est pas qu'elle est un mensonge, pas du tout, ou qu'elle est totalement à côté de la plaque, pas du tout, peut-être que si, mais c'est est-ce que je suis prête en fait au changement qu'implique le premier changement. Et je sais que pour moi, ça a été une raison pendant des années de ne pas, par exemple, aller voir un psy, parce que je n'étais pas prête à ce changement-là. Sauf que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ces dernières semaines, enfin, en soi, c'est pas ces dernières semaines, ça a été la goutte d'eau, mais c'est l'accumulation d'années et d'années de souffrance quelque part. Et là, en fait, ces dernières semaines, je suis arrivée à un point de frustration, le plus extrême que j'avais jamais connu. Et c'est là où je me suis dit, stop. Là, j'ai fait mon maximum. J'ai pris sur moi, comme j'ai jamais pris sur moi. Mon rôle s'arrête ici. Là, j'ai besoin d'aller consulter une aide extérieure. Donc, j'y vais. Mais je sais que j'ai eu cette possibilité, en dehors de financière, sachant que vous avez quand même des chèques psy pour aller voir des psys qui vous sont remboursés, et les aides, le fait est d'aller voir un psychiatre, c'est remboursé par la Sécurité sociale, par la Mutuelle, parce que c'est un médecin. Donc voilà, déjà de un. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière plus large, je sais que moi, j'ai pu me faire confiance en fait, pour prendre rendez-vous chez le psy, parce que j'ai des gens autour de moi qui ont détaboutisé l'accès au psychologue. J'ai des amis très très proches de moi qui m'ont parlé de leur thérapie et qui m'ont dit surtout en fait, meuf, au pire, si t'estimes que toi t'as pas des problèmes très graves, aller voir un psychiatre ou un psychologue, bref, peu importe, tant mieux. Tu le verras que deux séances et puis vous en parlerez plus. Par contre, ce petit problème que t'avais quand même assez en tête pour prendre rendez-vous chez le psy ou pour du moins y songer, il sera réglé. Par contre, si tu le laisses de côté pendant des années, il va s'accumuler à d'autres, il va s'agglomérer à d'autres. Et là, il te faudra peut-être pas deux séances, mais deux ans pour le régler. Parce qu'il y en aurait eu plein d'autres à côté. Et je me souviendrai toujours qu'à ce propos, mon père m'avait dit une phrase quand on avait parlé de thérapie, parce que voilà, moi, mon père a fait de la thérapie, on en a toujours beaucoup parlé. Et il m'avait dit, tu sais, Juliette, la seule différence à faire une thérapie quand t'as 40 ans et quand t'en as 23. J'ai dit non, papa. Il me dit, ben, à 40 ans, tu fais 40 ans de thérapie. À 23 ans, t'en fais 23. Donc si après toi, 10 ans plus tard, à 33 ans, t'as rebesoin de faire une thérapie, tu feras plus 33 ans de thérapie. T'en feras que 10 ou 5, suivant ce qui t'est arrivé. Et ça te fait toute la différence. Je te dis, à 23 ans, si tu fais une thérapie, tu n'imagines pas les années de non-souffrance que tu vas te permettre. Tu n'imagines pas tous les choix que tu vas faire qui seront plus éclairés, plus en phase avec qui tu es, et où, sur lesquels, en fait, tu auras beaucoup moins de regrets. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me coûte, en dehors de l'argent, bien évidemment, à l'heure actuelle, d'aller voir un psy, si c'est pour aller mieux, plus rapidement? En fait, j'ai l'impression d'avoir un cheat code. Je vous jure, à chaque fois que je sors des séances, littéralement ma deuxième, c'est pas facile, il y a des choses qui sortent qui sont pas évidentes, mais je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir un cheat code en main. C'est que je sais que rien qu'aujourd'hui, c'était très dur ce qui a été dit, parce que voilà, c'est quelque chose que je refoulais depuis longtemps, que je réfutais surtout depuis longtemps. Mais là, de l'avoir compris, ouais, j'ai l'impression de me dire, mais j'ai eu un cheat code sur la vie. Et j'avais vraiment envie de partager cette pensée, parce que si vous hésitez à aller voir un psy, mais que vous vous dites, non, mais j'ai pas assez de raisons, je suis pas légitime, nanani, nanana, déjà c'est faux en fait. Déjà c'est faux. Et puis, quand bien même vos raisons ne sont pas si graves que ça, même si personne ne peut juger à part vous-même, et même vous-même, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour savoir ce qui est légitime ou pas, bah vous ferez deux séances et on n'en parlera plus. Ça, c'était j'allais dire le premier point de cet épisode que je voulais aborder, mais en vrai, c'est le premier gros point parce que je pense que ça fait appel à tellement plus loin. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai des gens dans mon entourage en fait qui ont été en thérapie et qui, en fait, après la thérapie, après ce gros changement, parce que prendre en charge sa santé mentale, c'est quand même un énorme truc, se sont mis à côté à déclencher d'autres changements, mais de manière hyper fluide. C'est-à-dire que le retour que j'avais, c'était, ben, quand tu commences à prendre soin de ta santé mentale et à te rendre compte à quel point c'est important, à te rendre compte à quel point tu as intérêt à la chérir et à la préserver, eh ben, le reste suit. C'est que tu te dis, genre, c'est bête comment dire, de faire en sorte d'aller mieux mentalement, mais par exemple, de ne pas faire en sorte d'aller mieux physiquement. Et moi, vous voyez, puisque nous sommes aux confidences, j'ai été fumeuse pendant 7 ans. Ouais, 7 ans. J'ai commencé vraiment, j'avais 17 ans. Non, 6 ans. Je suis fumeuse, enfin j'étais fumeuse depuis 6 ans. Et en fait, ça me trottait dans la tête d'arrêter de fumer depuis un certain temps. Enfin, pour moi, en fait, je connais aucun fumeur qui a pas envie dans sa tête d'arrêter de fumer. Je connais personne qui dit, oh non, j'espère que je vais fumer toute ma vie. Non, c'est de la merde, on le sait tous. Donc forcément, je parle de cigarettes, bien sûr. Donc on est tous, je trouve, plus ou moins alertes sur le fait qu'on n'a pas envie d'être fumeur toute notre vie. Déjà parce que ça coûte cher, et ensuite parce que ça n'apporte que du mauvais à votre corps, sous plein d'aspects. Il n'y a pas une chose positive, dans le fait de fumer. À part les constructions sociales qu'on s'en est faites, mais qui sont des leurres et qui sont, bref, plein de choses. Les marques l'ont influencé, les films l'ont promu comme quelque chose de magnifique et tout. On en revient toujours à la même chose, mais fondamentalement, sur votre corps, on parle d'addiction, on parle de ça vous détruit la santé, etc. Et ce que je veux dire, c'est que ça me trottait dans la tête depuis déjà un certain temps de vouloir arrêter de fumer. Mais j'attendais comme d'avoir ce déclic. Et en fait, mon déclic, ben, ça a été de commencer ce changement. Ça a été par la thérapie, il avait commencé en soi avant ce changement. Ce changement, ça a été d'arriver sur Bordeaux, d'être en coloc avec ma meilleure pote, d'être dans un appartement qui me fait du bien, de manger des bonnes choses, d'aménager ma chambre à une image qui me correspond, où je me réveille, où je me couche le soir en phase en fait, où je suis bien chez moi. Le changement, ça n'a pas juste été d'aller voir un psy, ça a été tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu pendant et tout ce qu'il va y avoir après. Et tout ça pour dire que il y a eu toutes ces choses qui se sont passées. Et là, je me suis dit, ben, ça fait du sens. Donc, boum, j'arrête de fumer. C'est très dur, bien sûr. Ça pourra faire l'objet, je pense, peut-être d'un autre épisode. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi ce changement. Et moi, je m'étais dit, vous voyez, je suis quand même fumeuse depuis mes 17 ans. C'est étrange à dire, mais ça fait partie de mon identité. C'est que dans mon identité, il y avait fumeuse. Et c'est particulier de se dire, ça, je ne vais plus l'être. Et c'est là que je vous parle de changement. C'est que ça fait bizarre, ça fait peur, parce qu'on se dit, mais moi j'étais habituée, voilà, quand je prends des verres, bah, aller en terrasse. J'étais habituée avec certains amis, certaines amies, à être dehors, même quand il faisait froid, même quand il y avait du vent, parce qu'on fumait. Et ça nous faisait marrer. Parce que, ben, voilà, on se trouve toujours les meilleures raisons du monde de faire ces choses-là. Et je me suis dit, genre, est-ce que je suis prête? Oui, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour aller mieux. Et mon Dieu, ça va aller très vite mieux sur plein de points. Mais de l'autre, est-ce que le changement qu'il y a de, ben ouais, peut-être que cette soirée, je la ferai pas parce qu'il y a que des fumeurs et que maintenant que je serai non fumeuse, ben la fumée de clope, j'en aurais pas envie, quoi, dans la tête, dans les yeux ou dans le nez. Est-ce que ce verre-là, je vais être chaud de le faire parce que, enfin, ça va m'inciter à tatati tant que je suis pas sûre que je suis passée à autre chose. Et c'est là où je vous parlais encore une fois de l'envie, du besoin de changement, mais de la peur que celui-ci implique. Et je sais que moi, j'ai repoussé l'arrêt de la cigarette pendant très longtemps, surtout quand, avec cette addiction, on se crée des raisons sur des raisons sur des raisons, parce que même si j'en avais envie, j'étais effrayée sur certains points de ce que ça allait impliquer, parce que je m'étais construite comme ça. Comme sur mes problèmes, sur les soucis que j'ai à comprendre certaines choses, on va dire, d'un point de vue mental, qui sont pour certaines erronées, mais qui juste j'ai construit comme ça parce que j'ai fait avec ce que j'avais en termes de modèles, de reproduction sociale, familiaux, etc. Ben c'est pareil avec le schéma de la cigarette. C'est que c'est plein de choses à déconstruire et c'est pas évident. Mais une fois qu'on a fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, c'est pas que c'est plus simple, mais c'est que c'est plus fluide. Et de ce fait, on en vient à d'autres changements qui ont accompagné tout ça, soit avant, soit pendant, soit après. Un changement qui est intervenu avant, moi, c'était de me remettre à la lecture, pleinement, et de me détacher le plus possible des écrans. Ça, je pense que c'est pour moi le changement qui a été radical cette année, bien avant la thérapie, l'arrêt de la cigarette, et vous allez le voir ensuite, une autre chose qui change ma vie, qui va faire de moi, mais vous allez vous foutre de moi. Hein. Là, pour le coup, enfin non, vous allez être très fiers, mais c'est vraiment le couronnement de la meuf saine, quoi. Qui prend soin d'elle, mais bref. Avant ça, donc, j'aimerais parler de quelque chose qui a énormément poussé la machine, en fait. Ça a été le détachement des écrans, le détachement de mon exposition aux réseaux sociaux, en tant que vieweuse et en tant que créatrice. Et surtout, ma remise, ça se dit, ma remise à la lecture, mon goût pour la lecture renouvelé de nouveau. J'ai toujours parlé de manière assez libérée sur mon idée de l'exposition aux écrans, que je pense que c'est un fléau et que c'est en train de nous bousiller. Autant de nous bousiller notre aptitude à nous concentrer, notre aptitude à être heureux sur des tâches qui demandent du temps, parce qu'on est de plus en plus habitué à avoir un contenu qui nous divertit en 7 secondes, avec plein de couleurs, avec tout ce qu'on entend qui est aussi retranscrit à l'écrit pour nous éviter de nous concentrer plus qu'autre chose, parce que la lecture va être plus simple que de se concentrer sur un son qu'on entend sur une image, mais de pas avoir le texte, blablabla. Je pense que dans un certain extrême, les réseaux, l'exposition aux écrans est en train de nous bousiller. Bien sûr qu'il y a de très belles choses, bien sûr que les réseaux sont géniaux, bien sûr que en soi l'écran, bah, le fait est de regarder des films, etc., des séries, c'est super, hein, ce n'est pas la question. Là, je parle vraiment de la surexposition aux réseaux, dans laquelle on baigne parce qu'on a grandi avec ça. Le fait est de scroller machinalement, on attend le bus, on scrolle. Ou on regarde comme ça, vaguement, des vidéos YouTube, qu'on va regarder en fait en 2 minutes, puisqu'on va entrer dans le bus, bonjour, je passe ma carte, donc je vais même pas écouter à fond ce que dit la personne, enfin bref, on va switcher ensuite sur un autre contenu. J'attends le bus, je scrolle, j'attends de manger à la cantine, je scrolle, j'attends à la caisse du supermarché parce qu'il y a du monde, je scrolle. On est en permanence connecté. Et je pense que moi, sur un certain point, pareil, j'en suis arrivée à un extrême de frustration où je me suis vue. Vous voyez comme le clip de Stromae, Carmen, où on voit toutes ces personnes en fait qui se font bouffer littéralement par ce petit oiseau trop mignon au début de Twitter, qui ensuite va devenir énorme, énorme, qui va se remplir de notre besoin de validation via les réseaux, notre besoin de scroller, notre besoin d'être reconnu, etc. Et qui en fait va nous manger pour ensuite nous déféquer, genre, comme on dit, nous chier, genre, dans une montagne, il y aura toutes ces personnes. Et je me suis vue comme ça parce que mon téléphone, un jour, avait plus de batterie, ce qui m'arrive rarement, parce que j'arrive toujours à anticiper la batterie, et mes AirPods aussi, enfin bref, j'étais sans rien. Je lève la tête, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de silence, en fait, et de non-occupation à part mes yeux. J'étais plus du tout habituée à ça. Et là, je lève les yeux et en fait, je vois tous les gens dans la rue, tête baissée, avançant comme des pantins avec leur téléphone. quasiment tous les gens. Il devait y avoir deux personnes qui n'étaient pas sur leur tel. Là, je parle des personnes seules. Parce que oui, quand on est avec des gens en groupe et tout, en général, on n'est pas trop sur nos tels. Ou alors, ça devient un peu triste si on est en groupe et qu'on ne se parle même pas et qu'on est H24 sur nos téléphones. Mais là, je parle vraiment des personnes seules. Il n'y en avait pas une, ou peut-être allez, une ou deux, qui n'étaient pas sur son tel. Mais sinon, tout le monde tête baissée sur son tel. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir le clip de Stromae. Et j'ai eu cette vision dont je savais que je faisais partie. C'était pas un choc, j'étais pas en mode « Oh mon Dieu, les gens ont un téléphone portable !» Mais dans un sens, c'était plus de nous voir comme des pantins. Ça m'a foutu un coup. Ça m'a foutu un coup énorme même. Et je suis rentrée et je me suis dit « Ok, là j'ai envie de changer la donne, parce que j'ai pas envie moi de finir en pantin, j'ai pas envie de finir... malheureux en fait sur mes téléphones, avoir une capacité de concentration et une capacité de bonheur diminuée au fil des années. Je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a des vidéos sur internet qui sont extrêmement intéressantes sur pourquoi les réseaux nous abrutissent et tout, et c'est pas du tout culpabilisant, c'est juste hyper analysé et scientifique d'ailleurs, enfin c'est très très intéressant et ça questionne vraiment je trouve voilà votre rapport aux réseaux sociaux, enfin notre rapport avec un grand N aux réseaux sociaux, aux écrans de manière générale. Et donc je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à me dire bon là tu vas poser le téléphone, j'avais pas d'heure précise vous voyez, c'était un peu comme je le sentais, et tu vas lire. Et je me suis remise à lire, mais vraiment. Je me suis remise à lire. Au début, j'avais envie de lire ces fameux livres de développement personnel dont j'avais beaucoup entendu parler. Et j'en ai déjà parlé avant, comme L'art subtil de s'en foutre, L'alchimiste de Paulo Coelho. J'ai lu un peu tous ces trucs assez connus et il m'en reste à lire. Et j'ai vachement aimé. Ça m'a fait un bien fou. Et puis surtout, je me suis rendu compte à quel point ça me fatiguait, mais dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que le soir, au lieu de chercher à m'endormir juste en étant exténuée face à mon téléphone, ce que j'ai toujours fait, en regardant de la ASMR, j'attendais vraiment d'avoir les yeux qui se ferment pour dormir. Et bien là, pas du tout. Je me mettais dans le canapé, je me prenais une tisane au citron, verveine, je prenais mon livre, et je vous jure les gars, en 20 minutes, hop là, boum, au dodo Annick. Peu importe ma journée, peu importe si je m'étais levée tard, je vous jure que lire, c'est extraordinaire. Et à l'inverse, il y a des fois où, malgré la fatigue, j'étais tellement emportée par mon bouquin que je ne pouvais pas m'empêcher de rester sur le canapé et de lire encore et encore. Ça m'est arrivé avec le fameux livre de Panayotis Pascos, La prochaine fois, tu mordras la poussière, et avec les livres dont je vous ai parlé en intro avec le sponsor du jour, donc La fille de la déesse de la lune et Le cœur du guerrier du soleil du royaume céleste. Avec cette histoire, genre vraiment hyper aventure, hyper. Un espèce de mélange de Seigneur des Anneaux, Hunger Games, la légende de Shang-Chi, les anneaux, là, je sais plus, pardon le nom. Mais c'est que vraiment ce sentiment d'être emporté par un univers que, oui, vous lisez, mais que vous avez créé vous-même dans votre tête. Vous voyez les personnages, ils sont presque à côté de vous, et encore plus proches de vous que si vous regardiez un film, vous les voyez en fait sur votre écran. Cette sensation-là, elle est indescriptible. Et je me suis rendu compte, en relisant, là, il y a 2-3 mois, à quel point ça m'avait manqué. À quel point, quand j'étais petite, en fait, je lisais tout le temps. Mais vous savez, je lisais tout le temps, c'était pas en mode de Shakespeare, Baudelaire. Hein. Non, je lisais, par exemple, le matin, je lisais mon paquet de céréales. Oui, c'est pas la lecture du siècle. Oui, c'est pas la lecture qui transporte, mais je lisais. Je lisais mon paquet de céréales, je lisais les J'aime lire au CDI. Je lisais plein de trucs de manière constante. Et là, je m'y suis remise, mais ça m'a fait un bien, mais... Je ne peux même pas le qualifier. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi ma série Lisons Ensemble, en fait, sur Instagram. C'est que comme ce podcast que je trouve d'utilité publique, enfin l'épisode que je fais, pas en mode « Waouh, ma parole, incroyable !» mais que je trouve important, en fait, encore et encore à détaboutiser et à étendre autour de nous, c'est que aussi ça peut permettre à des personnes de faire des meilleures avancées, parce que oui, je suis fondamentalement, convaincue que lire, ça fait beaucoup de bien à l'esprit. On s'en fiche de ce que vous lisez. Quand je vous ai dit, voilà, moi je lis des livres de développement personnel, pas que, mon Dieu, pas que. Je lis aussi des livres français, je lis des histoires qui sont vraiment arrivées à des personnes, mais je lis aussi des histoires totalement fictives, de l'ordre du fantastique, qui appellent juste au rêve, à l'onirique, au lyrisme, à la poésie. En fait, je lis de tout, je m'échappe de tout, et ça me fait du bien. Et je pense que oui, lire, ça fait du bien. Je pense que oui, faire une thérapie, peu importe ce que vous traversez dans votre vie, au pire, ce sera juste une mise à jour d'une séance pour dire « ça va bien, ça vous fera du bien ». et sinon ça vous empêchera beaucoup de malheurs à l'avenir. Oui, je pense que arrêter la cigarette, c'est excessivement bien. Et le dernier point que je voulais dire aussi, c'est que je me suis mise au sport. Je me suis enfin inscrite en salle de sport. Et croyez-moi que moi, l'argent que je débourse m'a toujours été d'un grand moteur pour faire les choses. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup, beaucoup marché. Dès que j'ai un trajet à faire, je marche. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai dû faire, je sais pas, 1h30 de marche. C'est pas waouh, mais j'adore le sport. Et pareil, dans cette envie de changement, sans pousser, vous voyez, à l'extrême. Mon but, c'est pas devenir Golgoth, hein, c'est juste de faire une à deux fois du sport par semaine, au moins pour me muscler, pour être en shape et tout. Mais c'est que oui, faire du sport, ça fait aussi fondamentalement du bien. Et c'est pas être un espèce de gourou de LOL CV. Vous voyez, à côté, j'adore bien manger et me faire super plaisir et pas être regardante. J'adore boire des coups, avec parcimonie, bien sûr, avec les copains. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que fondamentalement, ça fait du bien d'apporter ces changements et c'est la raison pour laquelle je voulais, moi, faire cet épisode aujourd'hui. D'ailleurs, nous en arrivons à la fin. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais il sortait du cœur et j'avais une immense envie de vous le partager. J'espère qu'il vous aura fait du bien, j'espère qu'il vous aura encouragé si vous en aviez besoin sur certains points. Voilà, je sais que moi, c'est ce qui m'a permis de faire des grands changements. Parfois, c'est devenu de moi-même. Parfois, ça a été grâce à juste un pote avec qui j'ai une conversation. Et vu que c'est un peu le but de ma chaîne depuis toujours et de mon contenu, j'espère que j'aurai été ce pote aujourd'hui pour vous. Cette pote. Jusqu'à la semaine prochaine, ou à plus tard, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et n'ayez pas peur du changement. Les êtres humains, on est faits pour ça. Ciao.